Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Postscriptum. Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
Postscriptum a 4 ans. Et nous sommes très fiers de vous annoncer que nous avons diffusé à ce jour plus de 60 épisodes. Un kaléidoscope d'histoires, de femmes et d'hommes aux parcours inspirants, mais surtout de dialogues renoués à notre micro. Merci à vous, chers auditeurs, de nous accompagner dans toutes ces rencontres.
Pour célébrer cet anniversaire, nous avons eu envie de donner la parole à ceux qui nous ont fait confiance les premiers, en livrant leurs histoires à notre micro. Celles et ceux par qui tout a commencé. Comment vont-ils, 4 ans après le début de cette aventure? Dans les deux prochains épisodes, on vous propose de prendre de leurs nouvelles.
Moi, je pensais avoir vécu la plus grande épreuve de ma vie en ayant reçu 2 cœurs et 1 rein, et que j'allais pouvoir retrouver un semblant de vie normale, entre guillemets, de, on va dire, un truc un peu doux, quoi. Et du coup, pas du tout. On m'a annoncé que j'allais être aveugle, carrément. Genre pas de demi-mesure avec moi, quoi. Je vais être aveugle dans les 2 à 3 ans qui arrivent. Et je me prépare, du coup, pour le grand saut dans le noir, quoi.
Lorraine a aujourd'hui 37 ans. Elle est l'une des 2 héroïnes de Chair d'honneur, le tout premier épisode de Postscriptum. Dans cette lettre sonore, elle qui a alors vécu 2 grèves de cœur, dialogue avec Blanche, dont le père, décédé d'une mort brutale, a été donneur d'organes.
Il y a un médecin qui est rentré à 11h18 dans ma chambre, 23h18. J'étais en train de regarder Friends avec ma sœur. J'étais vraiment bien ce soir-là. Et à ce moment-là, il m'a dit « Bon, ben, arrêtez de manger, puisque c'est ce soir, on a un cœur pour vous. »
Depuis cette interview, réalisée il y a 4 ans, nous avons régulièrement pris des nouvelles de Lorraine. Et nous avons récemment découvert avec stupeur qu'elle allait devenir aveugle.
Salut!
Coucou Lorraine!
Salut Alice, ça va?
Ça va et toi?
Ouais, trop sympa de te voir.
Ça fait plaisir.
Lorraine a accepté de nous recevoir chez elle. Dans ce premier chapitre, elle nous raconte comment elle a découvert qu'elle va bientôt perdre la vue.
Donc c'est ton nouvel appart.
Yes, plein de lumière.
Dans le second chapitre, elle explique comment elle se prépare au handicap qui commence déjà à être le sien.
Cher scénariste de ma vie, lettre sonore numéro 62.
Chapitre 1. Bientôt le noir.
Aïe! Ah putain! T'inquiète,
c'est l'histoire de ma life maintenant.
Quand tu te déplaces dans l'appartement, parfois tu te fais un peu mal, c'est ça?
Quand j'ai des pertes de vision, donc là, comme ces 4 derniers jours, il faut que mon cerveau se réadapte et je recrée mes repères. Donc je me prends des murs ou que je me prends de la table basse ou que je me prends mon fauteuil. Et là, du coup, je me dis, ah ok, là, mon cerveau est en train de se rééquilibrer, c'est que j'ai perdu un peu. Mais bon, je réagis même plus, hein. Parce que mon prof de locomotion, une des premières choses qu'il m'a dit, c'est « Tu sais, quand t'es aveugle, il faut accepter de se cogner. » J'étais là « Ok, super, mec. Merci. » Donc, mais il a pas tort. Il faut accepter de se cogner, d'avoir l'air un peu con. Mais bon, moi, je rigole toute seule. Sauf quand je tombe, là, c'est trop humiliant, je pleure. Non, mais dans la rue, tu sais, il suffit d'un tout petit rebord de trottoir que la canne décèle pas, ou que, parce que moi j'apprends mais je suis pas encore une as de la canne. Il suffit d'un tout petit rebord pour que ta chaussure bute dedans et que tu te pètes la gueule, hein. Mais c'est pas drôle de tomber, t'as vraiment l'impression, je trouve que c'est vraiment humiliant d'être à terre. En 2019, je commençais à me plaindre de ma vue et puis on m'a dit que j'avais une cataracte. Donc la cataracte, c'est ou pour les personnes âgées, Mais ça peut aussi arriver quand on prend beaucoup de cortisone dans sa vie. Mais comme j'ai eu 3 greffes en 13 mois, j'ai eu beaucoup de cortisone à haute dose. Et donc là, une fois que j'ai été opérée de la cataracte, 2 fois, donc pour la première et la cataracte secondaire, on pensait que je devrais récupérer une vue correcte avec ma correction de lunettes. Seulement, je continuais de me plaindre en disant « je vois toujours pas mieux, je vois toujours pas mieux ». Et je voyais que les médecins étaient un peu désespérés. Ils disaient « mais nous emmerde celle-là ». Parce que je voyais pas mieux et qu'ils avaient fait tout pour que je voie, donc en fait ils comprenaient pas. Et puis le Covid est arrivé, j'ai pas eu d'examen pendant 6 mois, à ma grande joie, hein, j'étais très contente de pas aller à l'hôpital, seulement en fait si j'y avais été, on se serait peut-être rendu compte que je perdais la vue sur les côtés. Et effectivement, jusque-là, tous les examens qu'ils me faisaient, ils me faisaient des examens de champ visuel central, donc ils voyaient pas que je perdais la vue sur les côtés. Et donc moi, ma sensation de mal voir, elle venait de là en fait. Et du coup, après pas mal de recherches, en 2021, ils se sont rendus compte que j'avais une rétinopathie auto-immune, une destruction de la rétine, une maladie de la rétine, hein, rétinopathie, et auto-immune fabriquée par mon système immunitaire. Donc du coup, grosse claquade quand même. Parce que moi, je pensais être tranquille, pouvoir construire ma vie avec mon compagnon et avancer de façon sereine, enfin en gérant mes greffes de cœur et de rein. Et en fait, depuis 2019, je suis sous traitement. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de traitements jusqu'en mars 2022. Ils ont essayé tous les immunosuppresseurs possibles et imaginables, tous les traitements possibles et imaginables pour essayer de ralentir l'avancée de cette maladie auto-immune qui détruit ma rétine, en fait. Et après 3 ans de traitement, donc entre 2019 et 2022, on m'a annoncé le 22 avril dernier, on m'a annoncé que j'allais être aveugle, carrément. Genre pas de demi-mesure avec moi, quoi. Je vais être aveugle dans les 2 à 3 ans qui arrivent. Sachant que lorsqu'ils me l'ont annoncé, il me restait déjà plus que, on va dire, 10 degrés de champ visuel, 12, sur 180-200. Et là, à l'heure où on se parle, 1 an après l'annonce qu'il n'y avait plus de traitement possible pour moi et que j'allais perdre la vue, il me reste 3 degrés à l'œil droit et 6 degrés à l'œil gauche.
Là, par exemple, tu vois quoi de moi ?
Là, étant donné qu'on est à 50 cm l'une de l'autre, je vois tes yeux, ton front, je vois pas si t'as des cheveux ou pas, quoi. En fait, évidemment, plus du coup la personne est éloignée, plus je la vois en entier, mais moins je la vois dans le détail, puisque je suis pas bien corrigée.
Là, on est en avril, et donc tu sais que l'échéance, il te reste encore 1 an et demi, 2 ans.
En fait, on peut pas vraiment savoir, parce que en fait, je peux me lever demain matin et avoir perdu un œil. J'ai aucune idée de quand est-ce que je vais plus voir. Et je ne sais pas de quelle manière est-ce que je vais continuer à percevoir la lumière, par exemple. En avril, ce fameux 22 avril où je suis allée voir le professeur qui m'a annoncé que j'allais perdre la vue, je savais exactement ce que j'allais entendre. Cher scénariste de ma vie, tu ne te moquerais pas un peu de moi, là, non ? C'est quoi cette série abracadabrande sur ma vie que tu nous as inventée, là ? Je reconnais que la saison 1 était dingue. Tu nous as tenus en haleine. Est-ce que je vais vivre, pas vivre, vivre, pas vivre ? On l'intube, on la désintube ? Ah non, elle respire pas toute seule, alors on la réintube. Va-t-on venir à bout de cette infection, et de celle-là, et encore de celle-là ? Son cœur va-t-il redémarrer, pas redémarrer, redémarrer ? Non, il redémarre pas. Allez, on l'enlève, son cœur, et on le remplace. La greffe va-t-elle marcher, pas marcher ? Va-t-elle se réveiller débile de ses 2 mois de coma ? Va-t-elle pouvoir remarcher ? Franchement, c'était un brin too much, mais le suspense était digne de la saison 1 de La Casa des Papel. Bravo. La saison 2 était pas mal aussi. Le suspense était également fort quand tu m'as fait croire que mes reins repartiraient, avant de décider que finalement non. Très émouvant l'histoire de la maman qui offre un rein à sa fille pour qu'elle puisse boire, boire, boire des coups à la vie. Qu'elle aurait tout donné pour me délivrer de la prison de la dialyse. Bien joué. C'était très haletant et vraiment émouvant. Bon, dès la saison 3, on peut dire que tu commences à rentrer dans une forme de répétition, une seconde greffe cardiaque, bon. Mais, je reconnais que tu as réussi avec brio à remettre le suspense à son comble. Cette fois, je n'étais pas dans le coma, bien consciente que tout pouvait s'arrêter en un battement de cœur. Et puis, au climax de cette saison 3, tu as remis l'espoir au cœur de l'intrigue avec l'arrivée de cette deuxième transplantation. l'arrivée de ce cœur si beau, si fort. Cette fois, j'ai vraiment cru que j'étais sauvée et que j'allais retrouver une vie plus douce. Mais bon, tu as lancé un peu trop précipitamment la saison 4. Mais là, on est tous d'accord pour dire que tu t'es beaucoup trop emballée. Le synopsis est lunaire. Et si je lui faisais perdre la vue ? Petit à petit. Tu vas perdre en crédibilité, tu sais. Lorsque je vais raconter ma vie, les gens vont me prendre pour une grosse mythomane, en fait. Parfois, il faut savoir s'arrêter. Généralement, après la saison 3, c'est nul. Faut changer d'héroïne, là.
J'ai eu des phases de grande terreur, en fait, de la sensation de tomber dans un précipice, de tomber dans le vide. Peut-être encore plus fortement qu'après mes grèves, j'ai l'impression. Ou alors j'ai oublié, mais j'ai l'impression d'avoir plus peur de perdre la vue. Si on jouait au jeu de « tu préfères te faire greffer un cœur ou perdre la vue », je crois que je dirais me faire regreffer un cœur, alors que mon pronostic vital n'est pas engagé et que je souffre pas physiquement. Ça n'a pas de sens. Mais là, là vraiment, j'ai l'impression de vivre un truc complètement abyssal. Bon, tu te dis que c'est pas possible. Tu penses que tu vas perdre ton autonomie, en fait. Je crois que c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Moi, je me suis déjà battue pour retrouver mon autonomie. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je vais être dépendante. Je vais faire porter ça, du coup, à ma famille, à mon futur conjoint. Bref, dépendance, quoi. Après, j'ai pensé au visage des gens que j'aime. Je vais pas les voir vieillir. Mon frère a eu un petit garçon. J'ai peur de jamais savoir à quoi il ressemble. Et moi, en fait, ce qui me fait le plus peur aujourd'hui, avec un an de recul, quoi, vis-à-vis de l'annonce, c'est d'être triste, en fait, et de pas réussir à rester heureuse. Je crois que c'est ce qui vraiment me fait le plus flipper. Parce que je crois que tu le maîtrises pas. Moi, jusqu'ici, j'ai jamais fait de dépression. J'ai eu des moments de déprime, évidemment. Hein. J'ai des moments de déprime. Il y a des jours où je fous rien dans mon canapé pendant 2 jours, où je suis une larve et je me dis « Ah, ma vie, c'est foutu. C'est fini. » Voilà, où j'ai beaucoup de tristesse. Mais en règle générale, quand même, je suis heureuse de vivre malgré tout. Et la plupart des personnes qui sont aveugles, que j'ai rencontrées, elles sont très heureuses aujourd'hui. Mais elles sont passées par une phase de déprime. Et moi, j'ai peur de cette phase-là. Si on me disait, t'inquiète pas, tu vas perdre la vue, mais tu vas pas faire de dépression, ça irait. Et puis, cette espèce de peur du noir qui est dans l'inconscient collectif, il y a un truc autour du noir, quoi. Non ? Enfin, je sais pas. Il y a un truc autour du noir, donc le fait de te dire que je vais plus voir, je trouve que c'est vraiment abyssal. Après, c'est pas ma première épreuve, donc j'ai pas mal de petites techniques pour essayer de tenir bon. Je suis toujours aussi entourée, aussi aimée. Et donc rapidement, je me suis dit, ok, donc ça y est, c'est officiel, tu vas perdre la vue, tu n'as plus de levier là-dessus. Et j'ai mis du temps à accepter que ma réalité et mes rêves ne se rencontraient pas, en fait. Donc, comme tu peux pas changer ta réalité, t'es obligé de changer tes rêves.
C'était quoi tes rêves ?
D'avoir une vie banale. Genre vraiment le truc le plus basique que tu peux imaginer. Bah, moi je voulais ça, moi. Tu vois ? Genre mettre ma petite robe, mes petits talons pour aller au boulot le matin, faire mes petits PowerPoint, faire mes présentations, puis rentrer le soir chez toi et te demander ce que tu vas bouffer, quoi. En fait, je sais pas, parce qu'il y en a d'autres qui doivent se dire en m'écoutant, ah mais c'est horrible. Ce qu'elle décrit comme vie, on n'a pas envie de ça, on a envie d'excitation et tout. Mais en fait, moi, je crois que j'ai eu ma dose de peur, d'excitation, de montagne russe pour le reste de mes jours, en fait, là. Donc moi, je rêvais d'une vie douce, en fait. Voilà, de partir un peu à la mer l'été, un peu à la montagne l'hiver, de bouffer de la raclette et enfin, je sais pas, un truc tout doux, quoi. D'essayer d'avoir un enfant, voilà, c'était ça, mon rêve de vie, c'est ça, ouais. D'essayer de me faire un beau voyage tous les 2 ans. C'était ça mon rêve. Et du coup, pas du tout. Mon rêve de vie douce et normale s'est envolé avec mes yeux. Et donc, je me suis dit, ok, sur quoi tu as du pouvoir ? Quels sont les rêves qui te font quand même vibrer et qui sont compatibles avec ta vie aujourd'hui ? Et donc, déjà, je me suis arrêtée de travailler. Parce que ça devenait ridicule de faire des PowerPoint enfermé chez toi à cause du Covid, parce que l'entreprise voulait pas que je revienne, parce que j'étais trop fragile à cause de mes greffes. Ça n'avait plus de sens. Et donc j'ai décidé de lancer une cagnotte et de faire le tour du monde en 1 an et demi.
Coucou les chéris, juste un petit message pour vous dire que tout va bien. Il doit être bien tard à Paris. Nous, on est sortis de la plage, la nuit est en train de tomber et on rentre à l'appartement. Enfin, dans le petit bungalow, dans la petite résidence là, dans laquelle on est. On est trop contente. Aujourd'hui, on était à Saint-Pierre et on a visité le mémorial de l'éruption du volcan. C'était intéressant. Et après, on a été à la plage. Et puis voilà, et là, on rentre tranquillou. Et voilà, je voulais juste vous dire que tout va bien. J'ai toujours mal aux genoux, mais Clément m'a fait une petite ordonnance de tramadol. Donc, je pense que ça va au moins me permettre de dormir correctement. Mais sinon, on est au top, on est trop contentes d'être toutes les trois. Voilà, je vous fais des gros bisous, donnez-moi de vos nouvelles. Bye.
Vous venez d'écouter Bientôt le noir, le premier chapitre de Cher scénariste de ma vie. Dans le second chapitre, À tâtons, Lorraine nous raconte son tour du monde, mais aussi comment elle se prépare à sa nouvelle vie. Cet épisode a été réalisé par Romain Dubrac, un grand merci à lui qui nous suit avec talent depuis le début de cette aventure. Merci à vous d'écouter Postscriptum, le podcast des lettres sonores. On est aussi sur Instagram, Facebook et Twitter.